Bonjour, c'est Jérôme Olivier et Camille Clarenne, et ça, c'est le podcast No More Plastic, en partenariat avec le cabinet Etios. Bonjour à tous, bienvenue pour le premier épisode de ce podcast No More Plastic. Alors chers auditeurs, internautes, qui sommes-nous? Qui est No More Plastic? Quelle est cette initiative? Qu'allez-vous écouter dans cette émission No More Plastic? Comme toute idée, il y a une origine à celle-ci. Las de poster des articles négatifs sur notre planète, sur Twitter, las d'entendre que nous ne pouvons rien faire, las tout simplement de ne rien faire, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes et comme on le dit également si bien en latin, lupum oribus tenere, tenir le loup par les oreilles. En créant ce podcast No More Plastic avec mon amie Camille. Bonjour Camille.
Bonjour Jérôme.
Alors pourquoi le nom No More Plastic? En français, plus de plastique. Car le plastique est une des matières les plus toxiques pour l'environnement et reflète bien dans sa globalité notre façon de vivre. Rappelons que c'est près de 10 millions de sacs plastiques qui sont consommés par minute dans le monde. Nous en achetons tous les jours et il est pratiquement impossible de faire sans. Mais certains y arrivent et nous expliquerons dans les futurs épisodes leur méthode. Des milliards de tonnes de plastique ont été produites depuis des décennies. Sachez que 91% des déchets plastiques ne sont pas recyclés. La plupart finissent dans des centres d'enfouissement et malheureusement aussi dans nos océans. Bien sûr, notre volonté n'est pas de s'arrêter au plastique, mais à l'environnement en général, au changement climatique, de parler de tout, du déchet, comme le mégot de cigarette jeté par la fenêtre sur l'autoroute, des événements climatiques jusqu'au traitement des déchets nucléaires. Dans ce podcast, nous allons mettre en lumière des initiatives de personnes, d'individus qui chaque jour travaillent pour que notre planète, notre habitat, ne soit pas détruit. Alors oui, détruit est un grand mot, mais quand on lit le dernier rapport du GIEC ou les dernières déclarations de Ban Ki-moon, ancien secrétaire général de l'ONU, on se rend compte qu'il est vraiment temps pour nous de changer. Changer, c'est un grand mot pour nous tous, on aime le changement, mais changeons-nous vraiment. Comme dirait Winston Churchill, il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction. Et j'ai envie de vous dire, prenons-la, mais comment ? Comment nous, peuple du monde, pouvons à notre échelle et avec nos moyens faire quelque chose? Ces individus que vous allez découvrir avec nous, chefs d'entreprise, cadres, membres d'associations, réalisateurs, producteurs, citoyens de tous les jours, changent et trouvent des solutions. Je m'appelle Jérôme Olivier et j'animerai l'émission avec Camille Clarenne à côté de moi. Alors encore une fois, bienvenue pour le premier épisode de ce podcast No More Plastic. Il est temps maintenant pour nous de rentrer dans le vif du sujet. Voici nos invités.
Alors, Sarah Labbé, en charge de la marque Etios au sein du cabinet de conseil IO. Nicolas Kulakowski, chargé de développement chez Etios. Etios est un cabinet de conseil qui diffuse les préceptes de la Blue Economy et du développement durable. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Mohamed Kouitir, exécutif coach et senior consultant en transition écologique. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Pascal Moret, réalisateur et producteur de documentaires, spécialisé notamment sur le biomimétisme, dont un projet important, Nature est égale futur. Bonjour. Bonjour.
Donc comme on avait entendu pas mal de mots, pas forcément connus, blue economy, biomimétisme à l'instant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table. D'abord, Sarah et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce qu'Etios et de nous rappeler finalement qu'est-ce que la Blue Economy, Nicolas?
Alors premièrement, la Blue Economy s'articule autour de trois points. Le premier, le biomimétisme, c'est-à-dire faire du business tout en s'inspirant de la nature. L'aspect local, exploiter les ressources localement. L'économie circulaire, dans laquelle le déchet est une valeur ajoutée.
D'accord.
Donc c'est faire du développement durable tout en pensant compétitivité et rentabilité.
D'accord.
D'un autre côté, Etios, aujourd'hui, donc, comme l'a dit Camille tout à l'heure, diffuse le plus possible les préceptes du développement durable et de la Blue Economy. On fait donc du conseil auprès des industriels, des collectivités et également des levées de fonds pour les entrepreneurs du développement durable. On les accompagne, on les aide dans le cadre de leur recherche d'investisseurs.
D'accord. Alors finalement, qui sont ces clients ?
Des industriels, d'accord, des entreprises, de la grande distribution, des mairies, des collectivités.
Et qu'est-ce qu'ils font concrètement? Par exemple, si on prend un client dans l'industrie, qu'est-ce qu'il fait?
Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est pas grand-chose. C'est surtout de la communication pour certains. Je ne les mets pas tous dans le même panier. Beaucoup sont déjà très engagés. Mais aujourd'hui, ce qu'ils recherchent, c'est de pouvoir réellement faire du développement durable. Ils se rendent compte que c'est possible. Ils se rendent compte que c'est possible de rester compétitif tout en faisant du développement durable. Nous, ce qu'on va leur apporter, apporter. C'est des nouvelles solutions qui ne sont encore une fois pas des solutions de greenwashing ou de communication, mais des réelles mises en place de nouveaux process, des nouveaux paradigmes au sein même de ces entités qui sont énormes, des multinationales qui sont ouvertes et qui sont enclins à réellement apporter du changement, tant sur la consommation d'énergie, la revalorisation de leurs déchets, la revalorisation de leurs
chaleur. Vous avez un exemple pas de client, de ce qu'il fait, sans forcément le citer, mais de qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire que lui va changer demain notre façon de vivre?
Je vais plutôt parler d'un manque à gagner au niveau d'un secteur bien particulier. D'accord. Qui est celui industriel en France, au niveau des usines. Le manque à gagner au niveau de la chaleur perdue sur l'ensemble du territoire français, ça a été publié par l'ADEME, c'est 109 téra. C'est entre 20 et 30 usines nucléaires.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, cette quantité-là est perdue en chaleur, ce qu'on appelle la chaleur fatale. Et donc, c'est un manque à gagner donc, de chaleur qui est revalorisable et qui peut être réutilisée aujourd'hui.
D'accord, donc on peut réutiliser la chaleur en fait.
Exactement.
D'accord, mais c'est formidable. Et donc, d'où ça vient? Parce qu'on entend pas beaucoup parler finalement de la blue economy d'une manière générale, d'où ça vient et puis pourquoi on n'entend pas parler en fait?
Alors la blue economy, pour vous expliquer assez simplement, c'est un courant de pensée, on va dire, un courant de pensée qui a été communiqué et vulgarisé par et créé par Gunther Pauli, qui est un entrepreneur qui a travaillé pendant de très nombreuses années sur tous ces sujets. Et cet entrepreneur aujourd'hui, et surtout c'est comme ça qu'on le nomme de notre côté, c'est un porte-voix, c'est une personne qui à travers le monde va aller diffuser cette information, diffuser ses nouvelles méthodes de travail et montrer que c'est possible sous forme de projet. Il travaille beaucoup dans les pays en développement, c'est pour ça que chez nous, on ne connaît pas forcément. Mais en fait, lui a un sujet sur tous les pays pauvres, les pays en développement, pour les aider à recréer de nouveaux écosystèmes. Et en fait, sa règle à lui, c'est de toujours dire, quoi qu'il y ait comme déchet, c'est pas un problème tant qu'on a quelqu'un en face pour le récupérer, parce que ça a du sens, c'est une ressource pour quelqu'un d'autre. Je vais citer par exemple Idrissa Berkane, qui a très bien vulgarisé ces sujets. Et il disait de façon assez humoristique, la nature n'a pas besoin de sponsoriser les vers de terre pour qu'ils ramassent les feuilles mortes. Chez nous, on les balaye, la nature, elle les mange, parce que ça a du sens pour eux. Et en fait, la question de la blue economy dans nos économies, c'est se dire comment on va travailler tous ensemble, comment sur un endroit local, sur une zone, une ville, une région, on va pouvoir récupérer l'ensemble des déchets, les transmettre à d'autres, et en fait permettre à chacun d'être plus compétitif.
D'accord.
Et donc de créer de l'emploi, tout okay. simplement.
Alors, une petite question, parce que c'est vrai qu'on a pas mal fait de recherches sur pas mal de choses, et puis il se trouve que autour de on a pas mal de sur les réseaux sociaux de comptes qui se créent avec des super articles autour de peut-être de la blue economy, du développement durable, avec parfois des titres, ce français transforme les déchets plastiques en essence, ou des ingénieurs chiliens inventent un sac plastique qui se dissout dans l'eau en quelques secondes. Mais qu'en est-il de ces inventions? Parce que finalement, ça fait 2-3 ans qu'on voit ce type d'invention qui existe, mais en tout cas, on va au supermarché, on va à la station essence, je vais pas donner mes déchets plastiques. Donc, est-ce que c'est quelque chose, vous, qui vous concerne ou oui, mais est-ce qu'un jour, on va les voir, ces
Alors,
révolutions?
Alors, oui, tout à fait. Pour nous, c'est un très important sujet. En fait, pour vous expliquer rapidement, nous, comment on marche, eh bien, on travaille sur 3 pôles de méthodologie de travail, on va dire. Le premier, ça va être l'économie d'énergie, l'économie du déchet. Le second, ça va être l'innovation. C'est là que toutes ces solutions entrent en jeu. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont toutes petites. C'est le début pour elles aussi. C'est pour ça qu'on ne les voit pas encore. Et ça prend du temps de développer un modèle. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que la recherche, et je pense que Pascal en parlera beaucoup mieux que moi sur les questions de recherche, mais en fait, toute cette recherche, elle est en cours, elle est presque terminée, ça avance. Maintenant, la question, c'est de permettre à ces entreprises-là de devenir leaders sur le marché. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire que toutes ces structures, c'est des jeunes entrepreneurs, ou alors des entrepreneurs un peu plus âgés, mais qui démarrent tout juste, qui n'ont pas forcément les automatismes pour lancer une boîte et faire quelque chose de très industriel. Et du coup, c'est là qu'on intervient. Nous, on va les conseiller, on va les aider à trouver les financements, à trouver les moyens de grandir ensemble. Et on peut espérer, effectivement, toutes ces solutions-là vont arriver très bientôt sur le marché. Et l'important à côté, c'est ce que vous faites, par exemple, chez No More Plastic, c'est toute la pédagogie, toute la sensibilisation pour que les gens, le jour où ces produits vont arriver sur le marché,
merci.
Soient très enclins à les utiliser, tout simplement.
D'accord, merci beaucoup.
C'est vrai que notre quotidien, il est de les aider à grandir via nos réseaux d'experts financiers dans d'autres secteurs, de leur permettre de se faire connaître, de développer leur business, justement, de pouvoir les faire connaître et via ce porte-voix-là, de grandir avec nous.
Très bien. Donc Pascal, vous avez coproduit et co-réalisé le projet Nature égale Futur, une série de 30 films de 5 minutes autour sur le biomimétisme et la bioinspiration. Vous avez eu un lauréat LANRU.
Pour le faire, oui.
Pour le fabriquer, exactement. C'est une coproduction avec l'INSTREM, le CNRS, le Muséum d'Histoire Naturelle, le France TV Éducation. D'où vient ce projet, finalement? Pourquoi ce projet? D'où vient-il?
Alors, ça vient de Jean-Philippe Cambord, qui a lu un article dans Le Monde, c'était en 2012, autour de trois présentations de bio-inspiration.
D'accord.
Donc des chercheurs revendiquaient le fait d'être bio-inspirés dans leurs travaux.
D'accord.
C'est né de là. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il y a en France sur ce sujet-là? Et il n'y a pas grand-chose, quoi. En 2014, on a réussi à recenser une centaine de chercheurs. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus. Mais pour vous dire, au début, quand on a commencé à en parler à ces institutions, parce que ce que je voulais sur ce projet, c'est que les films soient diffusés gratuitement. Donc il fallait que je trouve le modèle économique avant de pouvoir le faire. Et donc c'est vrai que la bourse Estime m'a beaucoup aidé. Mais surtout, les institutions ne savaient pas de quoi on parlait. Il a fallu, pour certains, que je fasse les recherches de leur propre labo, qui était bien inspiré. Et une fois qu'on a trouvé les laboratoires bien inspirés, qu'est-ce qu'on voulait dire? Nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est que si on regarde aujourd'hui la nature avec la connaissance qu'on a aujourd'hui, c'est redécouvrir la nature comme on ne l'a jamais vue. Et donc, à partir des déductions et de l'analyse et des recherches qu'on pourra faire, comprendre comment la nature, elle, fait pour que nous, on puisse faire mieux, tout simplement.
D'accord.
Et ça, c'est un nouveau pan de la transition énergétique. Il faut savoir qu'au CESE, c'est le seul dossier où tous les bords, on dit oui, quoi. Parce que c'est ça notre avenir. Et la force qu'on a en France, c'est qu'on est en plus développement durable. C'est-à-dire que nos chercheurs pensent comment on fabrique ça. Par exemple, les Allemands l'avaient fait bien avant nous, par exemple. Mais ils n'avaient pas réfléchi au chaînon. Comment ça... Donc du coup, on pouvait discuter de l'intérêt de notre problème. Que là, en France, nous, on est très, très engagés dans le développement durable.
D'accord. Et donc ces films, c'est des films de 5 minutes, oui. Qui sont gratuits, disponibles sur Internet.
Pour les écoles, pour tout le monde.
D'accord. Et du coup, au niveau du biomimétisme, quelles sont finalement les grandes évolutions qu'on va avoir un peu plus tard? Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous toucher directement Parce que là, on parle...
Nécessairement. J'ai peut-être deux exemples à vous donner. La permaculture.
D'accord.
Pour moi, c'est la chose essentielle. Aujourd'hui, l'INRA a fait des études sur un terrain de 671 mètres carrés cultivé par une personne. Ça peut lui rapporter jusqu'à 55 000 euros par an. Et il nourrit 50 familles. Bon, quand est-ce qu'on s'y met, quoi?
C'est un bon exemple, du coup.
Et la permaculture, c'est des procédés techniques qui datent de... Mathusalem. Jean-Charles, quand je suis allé le voir à la ferme du Bec-et-Loin, il est allé sur le lac du Titicaca retrouver les traces des jardins d'il y a 12 000 ans. Il appelle son jardin Mandala, d'ailleurs. Et en fait, il met des plantes ensemble et elles s'associent et elles fonctionnent très bien. Et elles se protègent. Donc du coup, on a tout intérêt à redévelopper ce genre de choses. Et en plus, ça régénère de la terre. Il serait grand temps qu'on parle de ces sujets-là.
Bah c'est formidable, c'est parfait, c'est super. Donc du coup, je le rappelle, c'est disponible sur Internet, 30 films de 5 minutes.
Nature égale futur.
Nature égale futur.
C'est facile à écrire.
Voilà, en plus. Mohamed, donc, vous êtes passé par HEC, vous avez créé le cabinet Sensei. Qu'est-ce que vous faites pour vos clients? C'est quoi votre métier derrière?
Alors, mes collègues ont parlé de...
Donc vous travaillez, pour le rappeler, parce que voilà. Les gens ne le savent pas forcément... Donc vous travaillez avec Sarah et Nicolas. Et comment ça se passe, du coup? Qu'est-ce que vous faites?
Alors, eux parlent de blue economy, Pascal parle de biomimétisme, et moi, je parle d'écologie de soi. Mon rôle en tant qu'executive coach, alors, c'est executive coach en français, c'est coach de dirigeant, c'est d'accompagner les dirigeants des entreprises, quelle que soit leur taille, à prendre conscience de leurs besoins en tant qu'humains, et que ce soit dans une équipe, dans une organisation ou au sens individuel, et performer dans leurs actions. Et une particularité de Sensei, c'est qu'aujourd'hui, Sensei travaille beaucoup sur tous les aspects en termes de conseils et de coaching sur la transition. Et on a une spécialisation sur la transition écologique, mais bien l'écologie de soi, c'est important à noter.
D'accord, ok. Et donc, est-ce que vous voyez des choses concrètes qui se réalisent auprès de vos clients? Parce qu'on parle de grandes entreprises ou parfois de personnes physiques. Est-ce que vous voyez vraiment un changement durable, j'ai envie de dire, auprès de vos clients?
Je vais vous donner un exemple, pour rester dans la confidentialité, je vais vous donner quand même un exemple qui m'est revenu. C'est un ami à moi qui travaille en Allemagne pour une boîte un très grand groupe qui fait des cartes bancaires.
D'accord.
Que j'ai eu l'occasion de coacher. Et ce monsieur, tout au long du coaching, on sentait que ce qu'il faisait, ça lui plaisait. Enfin, c'était bien, mais c'était pas son sens, le sens qu'il donnait à ça. Et on en est arrivé, je vous passe les détails, on en est arrivé à un moment dans le coaching à finalement, mais qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui donnerait un sens à votre vie? Et il me disait, moi, ce que je voudrais, ce serait me rapprocher de la nature et pouvoir avoir mon centre équestre. Et c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Mais la vie, la société, mon environnement a fait que je me suis retrouvé là où je suis et je ne suis pas malheureux. Mais je me sentirais mieux si j'allais plus vers mon envie, au sens de ma congruence. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup de gens qui sont comme ça, beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de capitaines d'industrie même qui sont dans ce sens-là. Et
vous pensez que finalement, pour aller vers une transition, peu importe qu'elle soit écologique ou autre, il faut revenir vers soi-même, il faut revenir sur des bases, sur des choses que nous on a envie vraiment, ensuite finalement amener son entreprise sur quelque chose de nouveau.
On a parlé beaucoup ces dernières années de leadership, c'est un vrai sujet le leadership, mais moi j'ai envie de vous parler de congruence et d'alignement. Et la congruence et l'alignement, c'est se retrouver avec soi. Et prendre conscience du sens qu'on se donne et qu'on veut se donner à sa propre vie. Et généralement, pour l'instant, j'ai pas encore vu de cas contraire. On a très rarement des gens qui vont vers le capitalisme libéré, qui est une bonne chose. Hein. Pour moi, il n'y a pas de bon et de mauvais. C'est plutôt ces gens vont se retrouver vers des activités qui vont être tournées vers toutes les activités du biomimétisme, de la permaculture, vers les animaux, vers un vrai retour à la nature. Et l'objectif de Sensei, c'est vraiment, au travers d'un partenariat avec Etios, c'est d'accompagner justement les grands groupes, d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner toutes les personnes physiques et morales à prendre conscience de leurs vrais besoins et de suivre ça et de donner du sens à tout ça et de vivre leur propre sens.
Donc c'est parfait parce que justement là, ce qu'on voulait parler après, c'était un peu plus votre vie. Pascal, vous voulez dire quelque chose?
Non, mais parce que franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Je le pensais. Ça a été écrit dans un super bouquin sur l'entraide, qui est fabuleux, parce que je pense qu'une des actions, c'est effectivement l'éducation du soi, parce que c'est là que ça se passe. Fantastique. Et la nature nous apprend beaucoup de choses dans ce domaine.
Mais nous faisons partie de la nature.
Absolument, absolument. C'est ça.
Quelle belle
phrase.
C'est pas nous et la nature, c'est la nature, nous sommes dedans.
Nous sommes dedans.
On est inclus.
Donc on est une espèce qui fait en sorte que les autres espèces puissent survivre aussi.
Il faudrait qu'on fonde.
Et c'est ça qu'on doit réapprendre.
Moi, ce que je dis, je veux juste rebondir sur un. Je pense qu'il faudrait plus qu'on fonctionne sur un inclusif, not exclusif. Mm-hmm. S'inclure plutôt que s'exclure, parce que c'est ce qui nous permet aussi d'être congruent et aligné. L'homme est un animal social, Aristote le disait, et si on donne à la société, si on rappelle à la société qu'elle peut avoir un impact, qu'elle peut prendre en compte tout le monde et qu'on peut gagner, comme le disait Nicolas tout à l'heure, qu'on peut gagner sur des capitalisations, sur des choses qui sont perdues aujourd'hui, finalement tout le monde va y gagner.
Très bien.
Et si la nature disparaît, si la biodiversité est en train de se disparaître, excuse-moi, je me suis permis,
il y a pas de
parce
problème.
Que c'est exactement ça le sujet. Si la nature aujourd'hui est en train de disparaître, ça doit nous interpeller.
Bien sûr.
C'est pas. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ça doit nous interpeller. Et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça s'arrête. Parce que le chaînon, c'est que c'est nous, in fine. La vie ne peut exister que si elle est multiple. Hein. C'est une loi de la vie.
Alors justement, pour revenir à quelque chose de très très concret, si vous avez un conseil à donner pour les gens qui peuvent nous écouter ou les auditeurs, mais chaque jour, qu'est-ce qu'on peut faire de manière très concrète pour faire un petit pas, une petite brique qui permet justement de s'inclure plus dans la nature, Nicolas?
Déjà, ma pierre à l'édifice au quotidien, c'est Etios, dans un premier temps. C'est par ça que personnellement et avec toutes les personnes avec qui on travaille, je me sens un petit peu utile quand même à ce défi qui devient de plus en plus inévitable. Et à côté de ça aussi, chez moi, je mange uniquement des fruits et des légumes et je fais ma propre lessive.
Sarah.
Super. Alors moi, de mon côté, qu'est-ce que je conseille en premier? On est pour No More Plastique aujourd'hui, donc je vais le dire et le répéter. Acheter une gourde, ça ne coûte pas grand-chose. L'eau du robinet est très bonne, elle ne fait de mal à personne. On n'est pas dans des pays où on est obligé de boire dans des bouteilles d'eau. Pensez aux gens qui sont dans des pays en développement, qui sont dans des pays pauvres et qui n'ont pas le choix, parce que sinon ils ne boivent pas ou ils sont malades. C'est pas notre cas et c'est pas grand-chose, mais quand on y pense, moi dans ma vie c'était 365 bouteilles en plastique, une par jour pendant une année, et c'était inutile. Donc peut-être commencer par ça et ensuite ne pas oublier que sur le plan, avant de le faire même pour la planète, si c'est pas comme ça que ça marche pour certains, eh bien pensez à vous-même. Manger local, manger bio, manger des produits frais, savoir d'où vient notre alimentation, éviter les produits industriels, c'est une façon de vivre en fait, tout simplement. C'est quelques petits détails du quotidien qui, au pire, si vraiment c'est pas pour la planète que les gens le font, au moins il faut le faire pour soi, tout simplement.
Pascal, vous avez un conseil à donner du coup
sur c'est vrai que maintenant je vais faire mon marché avec mon sac, ça change les choses.
Donc un bon sac en tissu,
franchement,
un bon panier.
C'est plutôt bien joli, puis c'est voilà. J'ai même une amie qui apprend à faire ses paniers maintenant. C'est fantastique. À part ça, je voulais juste dire, dans ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, une deuxième loi de la nature, c'est que chaque déchet des uns est la matière première des autres. La nature coopère. Il faut qu'on réapprenne à coopérer avec la nature. Et c'est là où je te rejoins, Mohamed, c'est qu'on fait partie de cette nature.
Et Mohamed, un conseil du coup
Moi, je vais proposer aux consommateurs de bénéficier de leur toute-puissance et de devenir des consommateurs en refusant les pailles en plastique. Parce que c'est un premier point, c'est un pas qui est très dur à faire. Moi, je me bats tous les jours avec ça et les bureaux, dans les cafés, comprennent pas encore qu'il faut arrêter de diffuser cette matière, parce que c'est pas que les tortues qui en souffrent, c'est nous au final. Et soyons tous des consommateurs, soyons tous puissants et acceptons de refuser des choses qui nous servent à rien. Voilà.
D'accord. Alors,
est-ce que je peux te dire une dernière chose?
Il n'y a pas de souci.
Puisqu'on est sur les plastiques, il faut savoir quand même qu'à l'IFREMER, vous avez des chercheurs qui travaillent sur le plastique biodégradable à partir d'algues. Franchement, ça mérite d'être regardé de plus près et d'être aidé. Parce que c'est aussi ça notre devenir.
Alors justement, pour parler un peu de choses qui se font, il y a aussi des choses terribles qui se font, d'événements absolument terribles, ou qu'en tout cas qui peuvent être terribles, parce qu'on va parler du candidat d'extrême droite qui va peut-être être président du Brésil. Pour le rappeler, Jair Bolsonaro, il veut supprimer le ministère de l'Environnement au Brésil, sortir de l'accord de Paris sur le climat et relancer l'exploitation de l'Amazonie. Et nous, on est français, on est là, on discute autour d'un studio, de plein de petits conseils, de plein de choses. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce que si cette personne se fait élire, il va sûrement appliquer ce qu'il dit. Pour rappel, Trump avait dit qu'il sortirait des accords de Paris sur le climat. Il l'a fait. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça, nous, qui sommes à des milliers de kilomètres, finalement? Parce que l'Amazonie, c'est quand même le poumon de la Terre. Donc, est-ce que vous avez des idées sur des choses qu'on peut faire ou pas, Sarah?
Alors, première chose très importante sur ce sujet-là, c'est de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui se passe au Brésil? On est face à un pays qui est en développement, qui est pas très loin des États-Unis et qui est en train en fait de considérer que l'environnement, que les barrières réglementaires qu'on essaye de mettre en place sont en fait un problème pour lui, quelque chose qui ralentit sa croissance. Et donc malheureusement, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour ma part, la première chose, je pense que c'est, encore une fois, c'est faire de la pédagogie, c'est informer les gens. C'est pas quelque chose qu'on entend partout. Cette question d'élection, c'est pourtant un débat qu'on a aux quatre coins de la planète. On entend très souvent, y compris en Europe, des questions entre populisme et écologie, comme si ça pouvait pas marcher ensemble d'ailleurs, mais c'est très opposé aujourd'hui. Et la première chose peut-être est d'informer les populations, informer nous et aussi espérer que les populations là-bas feront les bons choix parce qu'elles seront bien informées. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on met en opposition, d'une part, la force de travail, la force ouvrière qui fait vivre les gens, et l'environnement, comme si les deux choses ne pouvaient pas aller ensemble. Et donc, je pense que la priorité, d'abord, c'est la pédagogie et c'est l'information, en fait, pour que les gens prennent de bonnes décisions.
Pour compléter ce que dit Sarah par rapport à la sensibilisation, Nikola Tesla, il y a à peu près 100 ans, disait que les plus grands maux de cette planète étaient dus à une incompréhension liée à un manque de connaissances, en fait.
Oui, mais
c'est vrai que vu la situation qu'il y a au Brésil aujourd'hui, aujourd'hui, je peux comprendre, on l'a vu dans l'histoire, que les pays en crise ouvrent des opportunités pour les extrêmes, que ce soit d'une part ou d'une autre, et je peux comprendre que ces personnes-là, pays en développement, pays en difficulté depuis près de 10 ans maintenant, le Brésil, je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que cette personne va être élue uniquement pour ses décisions par rapport à l'environnement. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont dites et qui intéressent les électeurs.
Finalement, une des conséquences, c'est quand même qu'il veut réexploiter l'Amazonie. Donc voilà, mais nous, ça, on ne peut pas faire grand-chose, en fait.
Je suis entièrement d'accord, mais il n'y a pas que l'Amazonie qui est le poumon du monde. Les océans sont en train d'être pourris par des pays qui sont en pleine démocratie aussi. Et les océans, c'est, l'océan, c'est 50% du CO2 qui est absorbé. C'est beaucoup plus, le travail que fait l'océan est beaucoup plus supérieur à ce que fait l'Amazonie.
Qu'est-ce qu'on peut faire du coup?
Alors, la solution, je pense que c'est de continuer à faire ce qu'on fait. On voit Trump qui continue à respecter son plan. Cette personne va sûrement respecter son plan aussi. Nous, notre mission, c'est de pouvoir continuer à travailler avec les entreprises, parce qu'on s'est rendu compte que la vraie puissance et la vraie force de frappe qu'on peut avoir, c'est de travailler avec les entreprises, parce qu'elles ont les leviers financiers et d'influence pour apporter ce changement-là.
Mohamed, un dernier mot peut-être?
Oui. Alors, tout à l'heure, je parlais des consommateurs. Je trouve intéressant l'information que vous nous présentez, parce qu'on parle beaucoup des autres. On regarde beaucoup les autres pays, mais avant de regarder les autres pays, je pense, et je vais peut-être en rajouter un petit peu par rapport à ce qu'a dit Nicolas et ce qu'ont dit Nicolas et Sarah avant, c'est peut-être qu'il faut se régénérer nous avant de chercher à les régénérer les autres. Bouddha, dans sa philosophie, dit que, en tout cas moi c'est ce que j'en ai, c'est une des choses que j'ai retenues, et je vais faire des raccourcis rapides parce qu'on n'a pas trop le temps, mais avant de pouvoir s'occuper des autres, il faut s'occuper de soi. Et pour moi, aujourd'hui, en France, on a des vrais sujets à porter, il y a des entreprises qui sont prêtes à avancer sur le sujet, et il suffit que demain, le Kidam, les gens qui vont écouter nos morts plastiques, décident d'en parler aussi avec les autres, pour que, peut-être que, comme on est à trois personnes de la personne la plus importante qu'on cherche à contacter, peut-être que les Brésiliens vont entendre qu'en France, on se bouge, on refuse les pailles, on a nos sacs en tissu, on a nos gourdes, et on n'a pas envie que nos forêts et nos lieux... nos espaces verts disparaissent.
Donc finalement, d'abord se concentrer sur nous, sur soi, pour ensuite...
C'est ma croyance fondamentale. De toute façon, on peut, sans alignement et sans congruence, avec le discours, on ne peut pas parler aux autres.
Super. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. C'est la fin de ce podcast. Merci à nos invités, à tous.
Merci beaucoup.
Répondu présent, pardon. Donc merci de nous avoir écoutés dans ce premier podcast de No More Plastic. N'hésitez pas à nous donner des conseils sur les réseaux sociaux sur comment l'améliorer, vos feedbacks. Et surtout, à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.